Il est écrit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et lorsque nous continuons la suite, nous arrivons au verset 41. Jean 8, 41, Jésus parle aux pharisiens et aux juifs. « Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Jésus répondit, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Et aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Le mensonge qui est un péché qui semble doux. Vous savez, il y a des drogues dures et il y a des drogues douces, comme on dit. Et le mensonge peut s'apparenter à un péché doux. Parce que vous savez, quand on ment, on ne blesse personne physiquement. On ne tape pas, on n'injurie pas. Parfois, on peut mentir en rigolant. Parfois, on peut mentir dans la douceur. Le mensonge semble quelque chose, entre guillemets, même de permis, puisque ça ne fait pas apparemment de mal direct. Or, le mensonge, la Bible nous dit, son père, c'est le diable. Donc, s'il y a une caractéristique qui est directement attribué au diable, c'est le mensonge. C'est vraiment son caractère fondamental. C'est le Seigneur qui le dit. Le caractère fondamental du diable, ce n'est pas de boire de l'alcool. C'est un esprit, il ne boit même pas de l'alcool, ou il ne fume pas. Mais son caractère fondamental, c'est mentir. D'ailleurs, diabolos, le diable vient du mot diabolos, qui veut dire calomniateur, menteur. C'est vraiment sa racine. Et aujourd'hui, beaucoup, dans une logique de douceur, ils se permettent de mentir, ignorant que ce faisant, ils s'approchent plus du caractère du diable que celui peut-être qui peut taper. On croit que celui qui tape est beaucoup plus méchant que celui qui ment. C'est ça, les apparences. Mais en réalité, la Bible nous montre que mentir, c'est vraiment ça, faire l'œuvre du diable. C'est vraiment s'approcher du diable. Le mensonge est très, très grave parce que c'est le caractère profond, essentiel même du diable. Et beaucoup se trompent en croyant que c'est les autres péchés qui serait le péché visible, le péché comme adultère, le péché comme injurier. Bon, il y a des gens qui n'ont pas la langue dans la poche, qui sont impulsifs, qui peuvent parfois injurier rapidement, et on les taxe, eux, des méchants. On oublie que c'est vrai, tout ça, c'est des péchés, mais le péché le plus grave, de la quantité ou de la puissance qui amène en enfer, tout péché amène en enfer, mais le péché le plus grave dans le sens du rapprochement au diable, c'est le mensonge. Et Jésus le dit clairement, si vous ne m'écoutez pas parce que vous êtes dans le mensonge. Et nous allons voir le processus profond du mensonge. Nous lisons Luc 18. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadait d'être juste et qui méprisait les autres. Hein? Nous commençons par un mot très très important, qui se persuadait. Le mensonge commence par soi-même. On se persuade, on commence toujours par se mentir soi-même avant de mentir aux autres. Donc, il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient donc, d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc, qui se mentaient à eux-mêmes, se convainquant d'être justes. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas ça notre thème, l'abaissement ni l'élévation, mais ça entre dans notre thème, le mensonge. Jésus cite l'exemple de ces deux personnes. Vous savez, on ne dit pas que le pharisien criait, hein? On dit dans Luc au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. On n'est pas encore dans la phase de parler aux autres. Il est juste seul et il se dit dans son cœur, « Dieu, je suis bon. Je ne suis pas comme les accapareurs, les injustes. Je ne suis pas comme ce péager-là qui est à côté. Moi, je jeûne deux fois par semaine. » Bien-aimé, le mensonge commence toujours par soi-même. On va commencer par vouloir se convaincre soi-même qu'on est bon, qu'on est fort, qu'on est beau, qu'on est juste. Quels que soient les procédés. Souvent, le procédé le plus connu, c'est se juger en fonction des autres. C'est ça le procédé. D'ailleurs, il a usé de ce procédé-là. Donc, pourquoi il s'est convaincu qu'il était bon? Parce qu'il a regardé les bêtises des autres. C'est le procédé le plus simple. C'est ce qui arrive souvent aux hommes. C'est que, en se comparant aux autres, il se déclare bon, juste, fort. C'est déjà du mensonge. C'est déjà du mensonge. Le fait de se persuader qu'on est juste, c'est déjà du mensonge. Et donc les gens qui ont cette attitude-là, où ils se persuadent d'être plus bons que les autres, déjà sont dans le mensonge. Pourquoi ils sont dans le mensonge? La Bible dit en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc déjà venir dans une attitude de victoire face aux autres est un grand mensonge. Et beaucoup sont dans ce mensonge dans le milieu chrétien. Ils se convainquent d'être bons parce qu'ils ont trouvé les autres mauvais. Parce qu'ils ont trouvé des choses à reprocher aux autres. Finalement, ils viennent avec une attitude de supériorité en disant « Moi, je suis bon ». Bien-aimé, c'est du mensonge. Le mensonge commence toujours par soi-même. Le menteur, c'est quelqu'un qui s'est forgé une image. Il s'est convaincu d'abord lui-même qu'il avait cette image-là. Ensuite, qu'on le veuille ou pas, comme dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, puisqu'il s'est déjà convaincu lui-même qu'il était bon, puisqu'il s'est convaincu lui-même d'une chose, il finira par vouloir convaincre les autres de cela. C'est un mécanisme profond que nous dévoilons, car il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Donc le mensonge, le menteur, c'est quelqu'un qui joue une comédie. Vous savez, autrefois, hypocrite, c'était un masque que mettaient les comédiens de l'époque grecque. Donc quand ils faisaient le théâtre, ils faisaient ça avec des gros masques. Je sais, peut-être vous avez déjà vu ça, avec des gros masques, avec un espace laissé pour la bouche. Hein, c'est vraiment des masques gros. C'est ce masque-là qu'on appelait hypocrite. Donc les comédiens mettaient ça, et donc ils pouvaient jouer leur rôle. Donc, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. jouer un rôle commence par se convaincre soi-même. Je suis fort. Je suis juste. Je suis bon. Avec le procédé habituel, la comparaison aux autres. Il y en a même qui disent tranquillement, moi je vole, mais je n'ai pas pris la femme d'autrui. Donc je suis bon. Donc chacun a ses critères. Moi je ne touche pas la femme d'autrui, mais je peux voler, faire mes affaires, mes magouilles, mais je ne touche pas la femme d'autrui. Donc ce faisant, ils se considèrent comme bons. Donc ceux qui font ces choses-là, c'est les mauvais. Donc chacun a son procédé par lequel il se déclare beau, fort, bon, juste. Il a ce procédé, mais le problème c'est que ce n'est pas toi qui vas juger. Le Seigneur dit au verset 50 de Jean qu'on vient de lire au chapitre 8, il dit que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Donc il faut laisser le juge parler. Or ce juge a déjà parlé. Il a dit dans Romains 3, 23, vous êtes tous pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quelqu'un qui s'affiche déjà avec une idée de supériorité, une idée d'être bon, d'être juste, est déjà dans l'erreur. Deuxièmement, nous revenons sur le mensonge. C'est quoi? C'est jouer un rôle. On se convainc d'abord soi-même d'être une chose, d'être quelqu'un, d'être dans une certaine image, dans une certaine façon. Et on voudrait maintenant convaincre les autres. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, le menteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'il est. Il n'est pas content de ce qu'il est. C'est pourquoi il veut se convaincre d'être quelqu'un d'autre. C'est ça le menteur. Il sait que la vérité ne lui plaît pas. La vérité, c'est ce qu'il est réellement. Ça ne lui plaît pas, alors il voudrait se faire passer autre chose. Ça commence toujours par soi-même. Et ça finit par s'exprimer. Et vous allez voir que souvent, ceux qui mentent ont peur. C'est des gens qui ont peur de changement de situation, qui ont peur d'affronter la réalité parce que la réalité ne leur plaît pas. Et ça crée une sensation de peur. Donc ils tremblent face à la réalité, ils tremblent face à la vérité parce qu'ils ne l'acceptent pas. Il y a un refus de la réalité et ça les pousse à mentir. Ils veulent... Deuxièmement, ils veulent aussi de la gloire. Le menteur, c'est quelqu'un qui veut de la gloire. Il veut que lui-même, il soit content de lui. Bon, bien sûr, il finira par le fait que les autres soient aussi contents de lui. Donc, il commence par lui-même. Il se donne une gloire. En se donnant une gloire, ça finira par le fait d'imposer aux autres cette gloire-là. Toujours par le mensonge. Il se croit quelqu'un et non seulement qu'il y a la peur, mais il y a aussi la volonté de donner une image qui serait gratifiant, une image qui serait qui amènerait une sorte de succès. C'est très très dangereux. Ce n'est pas bon. Il faut accepter la vérité, la réalité telle qu'elle est. Et à partir de cette réalité, Dieu va venir nous sauver. Mais lorsque nous rejetons la réalité et que nous entrons dans le mensonge, finalement nous empêchons le salut de Dieu. Vous savez, il y a un verset catégorique. C'est le verset qui dit « Celui-là parti justifié ». Donc, c'est celui qui a été dans la vérité, qui a dit à Dieu « Dieu, apaise ton cœur vis-à-vis de moi parce que je suis un pécheur ». Jésus dit, c'est celui-là qui a été justifié. Et celui qui se croyait bon, celui qui disait à Dieu qu'il était fort, beau, bon, eh bien celui-là n'a pas été justifié. À quoi ça sert de mentir si on n'est pas justifié par Dieu à la fin? Parce que c'est Dieu qui juge, Dieu voit tout. Marc 4, 22 dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Alors lorsqu'on veut se convaincre de quelque chose, sachant qu'on ne convainc pas Dieu de cela. Dieu, il voit. C'est pourquoi Jésus dit qu'il cherchait à se persuader. Parce que même ce pharisien-là, au fond de lui, il savait qu'il n'était pas juste. Au fin fond de lui, Il savait qu'il n'était pas juste. Mais il cherchait à se persuader, à se convaincre qu'il était juste. Donc, au fond, il le savait. D'où le mensonge, c'est déjà une lutte avec la vérité toute simple. Avant de commencer à mentir aux autres, c'est la lutte contre la vérité elle-même, contre Dieu elle-même. Parce que Jésus dit « Je suis la vérité ». Et donc, quelqu'un qui refuse la vérité, il est en train de lutter contre Dieu lui-même. Il cherche à se persuader parce qu'au fin fond de lui, il sait que ça, ce n'est pas correct. Mais alors, il veut créer une nouvelle doctrine, une nouvelle vérité. Vous voyez pourquoi Dieu, Jésus vraiment était en colère. Il a même dit que c'était le diable le père du mensonge. Parce que le mensonge s'attaque à la vérité, veut changer les choses, veut créer une nouvelle parole. Or, il n'y a qu'une seule parole, la parole de Dieu. Mais là, le mensonge veut en créer, veut créer une nouvelle norme. Et c'est très dangereux. Même le psaume 11.3 dit, quand les fondements sont ébranlés, quand les normes sont ébranlées, même le juste se perd. Même quelqu'un de bien intentionné, face à un contexte où le mensonge est considéré comme vrai, il peut tomber dans le mensonge. Et Ésaïe 5.20 nous prévient, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Donc ceux qui changent les normes, malheur à ces gens-là. Donc le mensonge, c'est ça. On veut changer la norme, c'est-à-dire qu'on est conscient au fin fond de soi-même qu'on a un problème, on a ceci comme problème, mais on veut se convaincre quand même qu'on n'en a pas et qu'on est bon et que finalement, les autres devraient nous accepter tels que nous pensons que nous sommes, alors que c'est le mensonge total. C'est ça qui conduit au mensonge, parce qu'on veut faire accepter quelque chose dont on s'est soi-même convaincu. C'est très, très dangereux parce que c'est la nature même du diable. Le diable veut transformer les choses, créer autre chose alors que Dieu a tout déjà créé. Donc, il faut faire très attention. Et quand on en arrive comme ça à se mentir à soi-même, on finira par mentir aux autres. Au début, c'est par facilité. Vous savez, la facilité, l'homme aime la facilité. Quand c'est facile, on est bien. Dès qu'il y a la difficulté, on se sent mal. Et l'homme cherche toujours à contourner la difficulté en trouvant des moyens faciles. Mais la recherche de la facilité fait tomber souvent dans le mal et dans le péché. La facilité, c'est dire, non, c'est pas moi qui ai pris ça. Devant la question, on s'en sort. Pendant 45 minutes, on s'en sort. On dit, mais qui a renversé l'eau sur l'ordinateur? Ah non, c'est pas moi. Ça doit être l'enfant de 3 ans qui a fait ça. Qu'est-ce qui se passe? On s'en sort parce que le propriétaire de l'ordinateur ne va plus nous attaquer. On s'en sort pendant 45 minutes. Mais le problème, on s'en sort que juste là, pendant 45 minutes, viendra un jour, il y aura un jugement où tout cela sera dévoilé, sera montré. Donc le mensonge, c'est ça. C'est le recours à la facilité. On se dit, oh, parfois ça vient machinalement. C'est-à-dire que les gens qui s'habituent à mentir, ils commencent après à mentir sans réfléchir. Ça vient tout seul. Tout seul, ça vient. C'est comme pour tout sport, pour toute science. Au début, on peut avoir des difficultés à appréhender le sport. Après, les réflexes viennent tout seuls, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une étude quelconque. Après, ça vient tout seul. Au début, on commence à mentir en réfléchissant, en calculant le coût. Mais à force de mentir, ça commence à venir tout seul. Qui a renversé l'eau? Ce n'est pas moi. Ça devient un réflexe. Et donc, on va crier sur le petit qui est innocent. Toi, tu t'en sors, mais ta conscience ne s'en sort pas. Ta conscience sait qu'il y a un problème. Mais le danger, c'est qu'on finisse par s'habituer à ça. Comment les gens finissent par s'habituer à ça? Ils se considèrent presque des dieux eux-mêmes. Ils ont droit à tout. Ils n'ont pas à être condamnés, ils n'ont pas à être accusés. Vaut mieux mentir, comme ça, moi qui suis le plus beau, le plus fort, il ne faut pas qu'on me touche, on touche à moi. Je dois toujours avoir raison. C'est ça qui amène les gens à tomber dans cet engrenage-là du mensonge. Au début, c'est juste par calcul, par intérêt, par facilité. Après, ils entrent dans une dimension où ils se considèrent comme intouchables, comme parfaits. Et donc, il ne faudrait surtout pas que les gens voient une erreur en eux. Et le mensonge devient chronique et démoniaque. Là, il y a vraiment besoin de délivrance. Il y a besoin de faire quelque chose. Mais au début, c'est juste la facilité. On veut s'en sortir dans les petites difficultés de la vie. On ment, on cache une feuille dans le bureau, on cache quelque chose pour qu'on ne voit pas, parce qu'on veut montrer une autre image. C'est très dangereux de céder à la facilité. Et quand on est dans cette logique-là, on finit par commencer à avoir peur à chaque fois de la vérité. Vous savez, on a vu des menteurs qui ont menti. En mentant, ils rendaient leur situation compliquée. Mais comme ils se sont laissés habituer à mentir, par peur, la peur est devenue leur problème de tous les jours. Et à force de mentir, eh bien, parfois ils se sont mis dans des difficultés, croyant se sauver des problèmes, mais ils ont commencé à mentir par réflexe. C'est très dangereux, bien-aimé. Le mensonge est très dangereux. Ça nous amène tout près du diable et la peur va venir. Le refus de soi-même va s'accentuer. Plus le temps va passer, plus tu ne vas toujours pas accepter d'être toi-même. Parce qu'être toi-même, ça te gêne. Ça ne t'apporte pas l'image que tu voudrais que les autres voient. Ça ne t'apporte pas la gloire que tu veux obtenir des autres. Et on commence ainsi à mentir régulièrement. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle les petits mensonges. On se dit, mais ce n'est pas grave, ça passe vite. Mais non, ce n'est pas parce que ça passe vite que c'est devant Dieu, ça passe vite. Devant Dieu, c'est du lourd. C'est du lourd. Le mensonge, c'est l'anti-vérité. Donc, c'est le refus du salut. Parce que celui qui est dans la vérité va faire comme le péager. Il va dire, Seigneur, je suis un homme pécheur, aide-moi. Mais celui qui est dans le mensonge va dire, non, moi je suis un homme bon, je n'ai pas besoin d'aide. C'est les autres qui ont besoin d'aide. C'est ça le menteur. Ils voudront toujours s'en sortir dans n'importe quelle situation. Il faut qu'après une discussion, on dise, non, il avait raison. Et c'est dangereux. Mais celui qui est dans la vérité est prêt à accepter son tort. Donc il est prêt à être dévoilé. Mais quand il est dévoilé, ça ne s'arrête pas là. Il crie à son Dieu pour être sauvé, pour être aidé. Mais le menteur, la porte du salut lui est fermée. Parce qu'il est bon, il est fort, il est beau, il ne se trompe pas. Et donc tout est bon, donc Dieu ne peut pas l'aider. Ce qui est plus grave, il peut en arriver à devenir manipulateur. Passer de menteur à manipulateur, ça devient encore plus grave. Parce que là, ça va être construit. Et dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont devenus manipulateurs, qui sont devenus menteurs, parce qu'ils se sont pris au piège de la facilité. Au début, ils mentaient par facilité. Ensuite, ils ont commencé à mentir par refus de la réalité. Ensuite, à cause de la peur. Et ensuite, parce qu'ils voulaient montrer une image aux gens. Et c'est très dangereux. Ne cherchons pas à être grands, ni à montrer une image quelconque aux gens. Soyons nous-mêmes, bien-aimés. Et si on est nous-mêmes, le Seigneur viendra habiter en nous et il fera de nous lui-même. Et ça sera glorieux. N'empêchons pas le salut de se manifester pleinement. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est un début, bien-aimés. On ne nous dit pas d'aller claironner aux gens nos erreurs ni nos bêtises, mais claironnons. Parlons de cela à nous-mêmes déjà. Commençons par faire comme le péager, dire à soi-même, non, c'est clair, je suis mauvais. C'est clair, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, c'est clair. Et ensuite, on le dit à Dieu. Il y a des gens qui ont même honte de le dire à Dieu. Parce que Dieu, c'est quand même quelqu'un d'extérieur, dans un premier temps. On ne veut même pas dire à Dieu qu'on est menteur. On a un problème. C'est pas bon, bien-aimé, parce qu'on meurt. Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés. Pour ne pas mourir dans ces péchés, il faut les dévoiler. D'abord à soi-même, ensuite à Dieu. Et quand le temps viendra, Jacques 5, 16 nous le dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc quand on confesse, ça libère la guérison. Beaucoup de gens ne sont pas guéris, ne sont pas bénis dans certains domaines parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Donc honnêtes envers Dieu et honnêtes envers les autres pour dire « j'ai tel problème, j'ai tel autre problème, maintenant je veux ma délivrance, je vais dévoiler la chose. » Ne serait-ce qu'à moi-même, ensuite à Dieu, et si Dieu le voudra, peut-être à quelqu'un d'autre. Le mensonge coupe le chemin du salut et surtout nous fait entrer dans la manipulation et après dans la lutte contre Dieu lui-même. Ne cédons pas à ça, bien-aimés. Acceptons l'humiliation d'être dévoilé. Vous avez vu là où ça a conduit David, le mensonge? Ça l'a conduit à tuer un homme parce qu'il ne voulait pas que la vérité soit dite. Parce qu'on allait dire à gauche, à droite, que David, qu'on croyait bon, là, il a pris la femme d'autrui. Mais si David avait dit la vérité, puisque dans 1 Samuel 8, les attributions du roi, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, comme vous voulez un roi humain, sachez qu'il peut prendre vos femmes. Mais David pouvait dire, bon, je vais user de mon attribution, appeler le monsieur, dire, écoute, j'ai fait une erreur, si on veut que ça s'arrange, je prends ta femme. Ou si tu es prêt à supporter, tu la gardes, mais pardonne-moi. Tout serait réglé. Mais David a voulu cacher ce mensonge, cacher ce problème plutôt, donc il voulait mentir. Et voilà, en voulant mentir, ça l'a amené à faire quoi? À tuer l'homme. Et quand il a tué l'homme, la malédiction est entrée dans sa famille. Il y a eu un enfant qui a violé sa propre sœur, un enfant de David. Le grand frère de celle qui a été violée a tué celui qui avait violé. Et David a connu des heures, des années difficiles à partir du péché du mensonge. C'est le mensonge qui a amené David à ce niveau-là. Ce n'est pas l'adultère. Parce qu'après l'adultère, il pouvait demander pardon. Il pouvait arranger avec Uri pour dire, écoute, si ça te choque trop, on arrange, je prends la femme. Si tu es prêt à supporter, tu gardes la femme et je fais une réparation. C'est vrai, on allait savoir dans tout le quartier, dans tout le royaume que David a fait une grosse gaffe, mais on allait aussi savoir que David a avoué, a confessé. Les gens auraient aussi pardonné, parce que les gens peuvent pardonner. Mais David a préféré mentir et le mensonge l'obligeait à tuer le témoin principal qui allait constater qu'il y a un problème. Et il a tué Uri. Et en tuant Uri, il a utilisé Joab. Donc il a fait de Joab son complice. C'est pas bon. Vous voyez l'enchaînement du mensonge. Il a fait de Joab son complice. Donc il a fait baigner Joab dans son péché. Et d'autres soldats qui ont tué Uri, qui ont poussé plutôt Uri au front. Ensuite, sa fille a été violée. Tout ça à cause de David, à cause du mensonge qu'il a voulu faire, pratiquer. Et celui qui a violé a été tué par son propre frère. Et ce frère-là a fini par chasser David du royaume. Mais tout cela lui a été prophétisé. Pour ce que tu as fait, voilà ce qui va. Il y a l'épée qui va entrer dans ta maison. À cause du mensonge. À cause du mensonge. Le mensonge nous pousse à devenir autre que soi-même. David n'était pas de ce genre-là. À tuer quelqu'un pour prendre quelque chose de la personne. S'il n'a pas tué Saül alors que Saül cherchait à le tuer, vous imaginez comment David était? C'était quelqu'un de bon. Mais parce qu'il a voulu mentir, il est devenu différent. Il en est arrivé à tuer quelqu'un pour des causes viles. C'est ça la réalité du mensonge. Le mensonge nous amènera à tuer. Le mensonge nous amènera à critiquer, à rabaisser, parce qu'on veut à tout prix cacher quelque chose. On est prêt à tout. On est prêt à corrompre, à manipuler parce qu'on veut cacher. C'est vraiment quelque chose de grave, le mensonge. Ça, au fait, ça nous change de nature. On devient quelqu'un d'autre. C'est la plus haute corruption que l'homme peut subir, le mensonge. Il devient quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on se dit, j'ai fait un petit mensonge. Mais bien aimé, il n'y a pas de petit mensonge. Ça commence toujours comme ça. Les enfants connaissent une affaire. Tu ne veux pas que toi, tu étais au courant, tu ne veux pas que ton mari sache, tu mens. Ça commence comme ça. Tu mens pour cette affaire, tu mentiras encore pour une autre, et ainsi de suite. Ça commence. Bien-aimé, il faut accepter d'être dévoilé. Si nous ne voulons pas finir et subir ce que David a subi dans nos vies, acceptons d'être dévoilé. En voulant cacher, on va faire encore d'autres choses, toujours pour maintenir ce qui est caché. Et ça nous enfonce. Ça nous enfonce. Les enfants t'ont vu faire quelque chose, tu les manipules pour que ta femme ne soit pas au courant ou ton mari ne soit pas au courant. Et ça commence comme ça. Après, tu feras un plus gros mensonge, un plus gros, et jusqu'à ce que tu feras un qui va faire éclater les choses. Qui va faire beaucoup plus de mal que si tu avais avoué dès le départ. David a fait beaucoup plus de mal à son pays parce que tout ce que David a subi, son pays a subi cela en même temps que lui. Quand il était chassé du royaume, il y a eu division entre les enfants d'Israël. Il y en a qui ont suivi David, il y a d'autres qui sont restés avec son fils. Son pays a subi son mensonge. C'est pas bon. Ça finit par être toujours grave, le mensonge. Le mensonge et l'hypocrisie, c'est la même chose. Là, nous voyons Jésus dénoncer le mensonge dans Jean 8. Mais ailleurs, il dénonce l'hypocrisie. Mais vous ne verrez pas vraiment Jésus dénoncer un péché lui seul, à part l'hypocrisie et le mensonge. Il n'a jamais dénoncé un péché lui tout seul. Il dénonce toujours les péchés dans l'ensemble. Il va citer beaucoup en même temps. L'adultère, la débauche, le vol, il va citer ça en même temps. Mais dénoncer un péché lui-même tout seul, ce n'est que le mensonge et l'hypocrisie qui est le même péché. C'est le même péché. Hypocrisie et mensonge. Hypocrite, comme on a dit, c'est porter un masque. Vouloir montrer autre chose que ce qu'on est réellement. C'est très dangereux parce que ça c'est une double vie, ça dénature. Donc c'est de la sorcellerie parce qu'on se dédouble. On se dédouble. Faisons attention. Beaucoup sont bloqués parce qu'il y a ce caractère-là de mentir. Et on ment facilement. On se dit, mais d'où viennent mes problèmes? Mais parce que chaque jour, peut-être, tu fais un petit mensonge. Mais c'est ta nature qui se corrompt profondément. Profondément. Il faut bien aimer adopter l'attitude du péager qui a dit, Seigneur, apaise-toi. J'ai un problème. J'ai péché. J'ai fait le mal. Et quand on est dévoilé, préférons bien aimer la réprimande de 5 minutes plutôt que les péchés de dénaturation. Parfois, ton mari va crier seulement 5 minutes. Mais comme tu ne supportes pas ça, tu veux le calmer, le contrôler, tu préféreras mentir pour qu'il ne sache pas et ne dise rien. Vaut mieux encore qu'il crie 5 minutes et tu es dans la transparence. Plutôt que mentir, tu crées un trou dans votre foyer, un jour ou l'autre, ça vous rattrapera. Il est écrit dans Nombre 32, 23, ton péché te retrouvera. Un jour ou l'autre, ça te retrouvera. Vaut mieux laisser quelqu'un se fâcher 5 minutes, 10 minutes et arranger, vivre à l'aise, plutôt que mentir, être sauvé, en quelque sorte, 2 jours et puis 3 ans plus tard, pâtir de ce rythme-là de mensonge. C'est très, très dangereux. Sachant, bien aimé, que Dieu dévoile toujours tout. Marc 82, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Dieu, il sait bien qu'on n'est pas parfait. Hein? Il le sait. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé son fils Jésus. Si on était parfait, il ne l'aurait pas envoyé. Jésus a dit, je ne suis pas venu vers les bons, mais vers les gens qui ont des problèmes. Voilà. Paul a dit, c'est une chose certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Paul a dit, moi-même, je suis le premier des pécheurs pour lesquels Jésus est mort. Bien-aimé, donc quand on a un problème de péché, d'erreur, quelque chose qui nous rabaisse, laissons Dieu dévoiler. Dévoilons-nous nous-mêmes. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 31, celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. Jugeons-nous nous-mêmes, condamnons-nous-mêmes afin que l'autre ne nous condamne pas. Que Dieu ne nous condamne pas. Reconnaissons et à partir de ce moment-là, soyons ouverts à ce que Dieu nous dévoile aux autres afin qu'on vive en paix, dans la transparence et la gloire de Dieu va venir, bien-aimés. il y a commencé à y avoir trop de menteurs dans les églises. Trop de menteurs. Parce qu'on se dit, ben, c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Parce qu'on tient à notre honneur, on tient à notre image. Mais ce n'est même pas notre image, parce que c'est faux. Notre vraie image, c'est qu'on est des pécheurs qui avons besoin de Jésus. C'est ça la vraie image. Alors nous, on s'est créé une image, comme dans un théâtre, comme dans un film, et on tient à cette fausse image-là. Non, le péager était tranquille. Seigneur, sois apaisé envers moi. Il ne regardait même pas le ciel. La Bible dit, il est parti justifié. Et le pharisien, il est parti condamné. C'est ça la réalité, bien-aimés. Sortons du mensonge. Sortons du mensonge et nous lisons Matthieu 23, entendre Jésus parler du mensonge aux pharisiens. Et ça nous aide en même temps à comprendre les aspects du mensonge. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc le menteur, c'est ça sa spécialité. Il dit, mais lui-même ne fait pas. Parce qu'il montre une image, mais lui-même n'est pas cette image-là. Nous continuons. Il lie les fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est ça le mensonge. On veut montrer une image aux hommes pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ça finit par de l'orgueil religieux. Où ils avaient des phylactères, où il y avait des versets. Ils agrandissent les franges de leurs vêtements sur lesquels étaient écrits des versets. Comme ça, on voit bien qu'ils sont purs. Mais c'est des menteurs. Leur vie réelle, ce n'est pas ça. Verset 6. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Le plus grand parmi nous, ce n'est pas celui qui est le plus bon, parce qu'il n'y en a pas. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui a l'attitude du péager. Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un homme pécheur, purifie-moi. Et vous savez, quand tu es déjà toi-même abaissé, tu finis par être quoi? Serviteur. Ah oui? Parce que si aujourd'hui on dit, mais qui est l'homme le moins qualifié parmi nous? Dès que tu lèves la main, ça veut dire quand on dira, qui va tirer les chaussures? Qui va tirer? C'est toi, parce que tu es l'homme le moins qualifié. Donc, c'est normal que quelqu'un qui déjà se reconnaît faible, petit, et dévoilé comme tel, il vient et dit, Seigneur, je suis petit. C'est normal que quand on demandera le petit service, il lui lèvera la main, parce qu'il se reconnaît déjà comme petit. Il se met déjà à la dernière place. Seul Dieu peut le mettre à la première place. Lui-même, il s'est mis déjà à la dernière place. C'est de tels gens que Dieu cherche. Et ce sont ces gens-là qui sont dans la vérité. Et comme ils sont dans la vérité, la gloire de Dieu repose sur eux. Mais le menteur voudra la première place alors qu'il ne la mérite pas. Nous continuons. Qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ils continuent toujours hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Vous faites pour l'apparence de longues prières. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Ils sont en colère parfois dans leur cœur. Mais dès qu'ils arrivent à l'église, on les voit C'est le plus spirituel. Mais pourquoi, frère? Donc, si tu n'es pas bien, quand tu arrives, tu dis, Seigneur, je ne suis pas bien. Fais-moi du bien pour que je sois bien. Mais toi, tu n'es pas bien. On dit, frère, tu pries. Longue prière de puissance. Et quand les gens restent, s'en vont, moi, les choses de Dieu, là, ben, tu commences à bouder. Mais pourquoi tu as fait des longues prières devant les gens? Beaucoup sont dans des mensonges d'apparence. Ils veulent montrer qu'ils sont bien avec Dieu. Ils veulent montrer qu'ils lisent la Bible. Ils veulent montrer, faire montre d'une certaine spiritualité, alors que ce n'est pas la vérité. Dieu n'est pas avec eux. Dieu est seulement avec les faibles. Les forts, Dieu n'a pas besoin d'eux. Ils se débrouillent par eux-mêmes. Si tu n'es pas bien, avoue cela. Dis au Seigneur, je ne me sens pas bien. Dis au Seigneur, je perds la foi. Restaure ma foi. Dis-le à un frère, dis-le à une sœur. Aide-moi. Je perds ma foi. Priez pour moi. Ne cherchons pas à donner des apparences. C'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge et c'est du diable. Nous continuons. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Parce que quand tu as fait des démonstrations comme ça, Dieu dit donc, toi, tu es fort. Maintenant, après, 10 minutes après, on te surprend en train de faire des bêtises. Dieu dira maintenant, toi, tu es censé connaître plus que les autres parce que tu as fait les plus longues prières. Allez, condamnation beaucoup plus sévère. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Donc, ces pharisiens-là allaient courir la terre et la mer pour chercher à faire d'un juif un juif pratiquant. Mais dès qu'ils arrivaient à prendre un juif pratiquant, ben, ils en faisaient leur domestique, leur chef. Ils manipulaient cet homme-là. Et beaucoup sont dans cette logique. Ils font des efforts pour convertir les âmes. Dès que les âmes sont converties, ils veulent faire de ces âmes-là leur propre bien à eux. Et ils les pourrissent plus qu'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent en faire leur propre bien. Non, bien, mais ce n'est pas parce qu'on a contribué beaucoup dans la vie de quelqu'un spirituellement qu'on doit en faire son bien. Là, on est encore dans le mensonge, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Dieu nous a utilisés, ça s'arrête là. Ne faisons pas des gens pour que Dieu nous a confiés nos propres biens. Ça pousse à la manipulation et au mensonge, à l'hypocrisie. Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? C'est des gens qui finissent par être attirés par le matériel. C'est clair, parce que le matériel, c'est ça l'apparence. C'est ça qui produit l'apparence. L'argent, c'est ça qui produit l'apparence. Le menteur finira par être faible vis-à-vis de l'argent, parce qu'il en aura besoin pour continuer à mentir, manipuler et produire de l'apparence. C'est des choses liées. Ce n'est pas pour rien que Dieu insiste sur le mensonge, parce que ça produit après tout le reste. Verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Le menteur finit par perdre foi en Dieu. Il insiste sur l'offrande au lieu d'insister sur Dieu lui-même. Mais la personne qui donne l'offrande, qui l'a créée, qui a permis qu'il ait l'argent, c'est Dieu. Pourquoi insister sur son offrande? Insiste sur Dieu. Le mensonge va attirer les gens vers tout ce qui est visible, parce que c'est ce qui est visible qui frappe. Les menteurs vont préférer craindre le pasteur plutôt que craindre Dieu lui-même. Parce que le pasteur, il le voit, Dieu, il ne voit pas Dieu. Et donc, ils vont préférer avoir des comportements qui vont plaire au pasteur au lieu d'avoir un comportement de tous les jours, à la maison, partout, qui plaît à Dieu, le Tout-Puissant qui a fait, et le pasteur et eux-mêmes. C'est ça le mensonge. Verset 19, 20, 21 plutôt. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Donc le menteur va préférer faire des actes, acheter quelque chose de visible pour l'œuvre de Dieu. Mais s'il faut donner beaucoup d'offrandes sans être vu, il ne donne pas, il donne un centime. Maintenant, quand il faut faire un don visible, il le fait. Comme ça, tout le monde sait que c'est lui qui a acheté la batterie de l'église. C'est ça, le menteur voudra paraître. Il ne voudra pas faire des actes qu'on ne voit pas, qui sont bénéfiques à Dieu. Il voudra faire des choses visibles pour qu'on voit clairement ce qu'il fait. Donc, c'est pourquoi les pharisiens préféraient donner la dîme, de la menthe, de la nette, donc du cumin. Et pendant qu'on donne tout ça, les gens voient. Il y avait des processions, les gens, chacun amenait sa dîme. Donc tout le monde voit, il a donné sa dîme. Mais la dîme de quoi? De la menthe, bien-aimé. La menthe, c'est quoi? Du cumin. Du cumin. Mais c'est des gens, s'ils voient quelqu'un souffrir, ils ne vont pas aider. Donc ils n'ont pas la miséricorde. Puisque la miséricorde, ça ne se compte pas. Ça ne se voit pas comme ça. Tu peux faire des actes de miséricorde sans que les gens sachent. Tu peux faire des dons sans que les gens sachent. Et les pharisiens, eux, ils voulaient donner les trucs apparents, la dîme, de la menthe, du cumin, mais des plantes qui ne valent presque rien. Ils ne sont pas fidèles. C'est des gens qui sont prêts à trahir facilement pour leur propre pouvoir. 24. Conducteur aveugle. Qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. C'est ça la réalité. Ils avalent le chameau, mais ils s'obstinent à détruire le moucheron. Mais c'est ça. Donc, ils vont insister, les menteurs vont insister toujours sur ce qui est apparent. Mais ce n'est pas ce qui est apparent qui est important, c'est le cœur qui est important. C'est le cœur. Mais eux, ils vont avoir un mauvais cœur et insister sur les choses apparentes. On continue. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Il y a des gens qui sont les plus doux, calmes, beaux, forts, de grands intercesseurs dans l'église, mais chez eux à la maison. Dans le dehors, c'est devant tout le monde, mais chez eux à la maison, rebelles à leurs parents, méchants vers les enfants, rebelles au mari, méchants vers la femme. Ça, c'est le dedans. Dieu dit, purifie le dedans. Ne cherche pas à prouver quelque chose au dehors. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Aujourd'hui, on voit des serviteurs. C'est devenu une mode de porter un complet blanc avec une petite colombe sur le revers de la veste, chemise blanche, costume blanc, chaussures blanches. Bien-aimé, est-ce que c'est ça qui fait de toi un ange? Non. C'est le cœur. Parce que toi, tu es incapable de voler malgré ton costume blanc, là. Mais l'ange, il vole. Il va là où il veut. C'est la mode pour donner une certaine apparence de pureté. Non, 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 non. La pureté, c'est le cœur. C'est des gens, au lieu d'aider le pauvre et la veuve, ils préfèrent dormir dans des hôtels de 12 000 euros la nuit ou 5 000 dollars la nuit. et ils viennent prêcher habillés en costume blanc. Le Seigneur dit malheur à vous, hypocrite. Vous préférez l'apparence, mais vous êtes comme des tombeaux. Vous ne produisez rien. Mais même s'il y a des foules qui les suivent, bien-aimés, Dieu les considère comme des tombeaux blanchis. Il y a des tombeaux qui sont mieux entretenus que des maisons. Mais qu'est-ce qu'un tombeau peut faire à quelqu'un? Il y a des tombeaux comme ce qu'on appelle les mausolées, le Taj Mahal en Inde. Mausolée visitée, mais oui, mais ça produit quoi? Rien du tout. Mais un homme peut être mal habillé et produire du blé, produire du maïs, et les gens s'en nourrissent, bien-aimés. Tombeau blanchi, en apparence doux. Moi, je connais des chrétiens en apparence doux. C'est-à-dire que si tu as un problème avec eux, tout le monde va te condamner. Mais nous qui sommes pasteurs, nous connaissons la vérité. Nous savons que ces frères-là cherchent un poste. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous, ce n'est pas vous qui donnez le poste. Vous êtes juste en communion, vous voyez la personne balayer rapidement, marcher comme ça. Mais nous, on sait, à cause des entretiens qu'on a au bureau, on sait que le type, en réalité, il cherche un poste. Et quand vous allez apprendre, mais que ce frère-là avait... Ah non, le frère-là, il est irréprochable, lui, il est doux. Mais vous ne connaissez pas le fond du cœur. C'est des tombeaux blanchis, des gens qui, en apparence, paraissent très doux. Aimant Dieu, gentil, prêt à rendre service. Mais tant que vous n'avez pas affaire à eux, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils cherchent réellement. C'est des tombeaux blanchis. Nous qui sommes dans des postes où nous, Dieu passe par nous, où nous distribuons des postes, nous distribuons des pouvoirs en quelque sorte aux gens. Nous connaissons la réalité qu'un tel est comme ça, mais en réalité, voilà ce qu'ils cherchent. Quand Jésus connaissait Judas, les apôtres ne connaissaient pas encore. Ils l'ont connu que quand ils ont eu affaire à lui concrètement. Mais tant qu'ils n'avaient pas affaire à lui, ils se disaient, Jésus l'a désigné, donc il est bon, c'est un bon apôtre. Mais la réalité n'est pas la même. Bien-aimés, soyons nous-mêmes. Mais il y a parfois des chrétiens qui peuvent paraître impulsifs comme ça, mais qui au fond sont les plus bons, les plus calmes. Mais ils ont quelques petits problèmes à régler, mais ils ne sont pas mauvais du tout. Mais il y en a qui paraissent doux. Et leur spécialité, c'est donner l'impression que tout le monde leur marche sur les pieds. Mais en réalité, tout ça est manipulé pour attirer la compassion, attirer la pitié. Et finalement, ça tourne à leur faveur. Ils manipulent les gens par leur attitude. Tombeau blanchi, bien-aimé. Mais il est écrit dans Marc 4, 22, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Tout cela sera dévoilé un jour. Tout ce que les gens font en secret, leurs vraies intentions sera manifesté un jour par la lumière de Jésus-Christ, que ce soit sur la terre, que ce soit le jour du jugement. Nous continuons. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que, il continue par rapport au tombeau blanchi. 28. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Voilà. Bien-aimés, finalement, que font les hypocrites? À un certain moment, ils vont sortir leurs griffes pour éliminer les gens de la vérité. C'est ce qui se passe. Que vous le vouliez pas ou pas, les hypocrites finissent par faire quoi? Des complots. L'hypocrisie, le mensonge, aboutit à un esprit de complot, de manipulation pour faire imposer quelque chose. C'est ce que les pharisiens étaient. Ils finissaient par faire des complots contre les prophètes de Dieu, contre les sages de Dieu, et ils les tuaient. Et Jésus dit, vous allez continuer à faire pareil, parce que vous avez le mensonge en vous. Les menteurs finissent par faire des complots. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous soutenir pendant 10 ans, parce que jusque-là, vous n'avez pas touché à ce qui les blesse. Ils sont dans une forme d'hypocrisie, ils sont derrière vous, parce que jusque-là, tout ce que vous dites, vous semblez taper sur les autres, mais pas sur eux-mêmes. Viendra un jour, lors d'une prédication, vous taperez sur quelque chose qui les concerne. C'est là que vous allez voir leur vraie face. Tant que vous ne les touchez pas, ils seront derrière vous. Moi, j'ai vu des gens dire, « Pasteur, prêche !» Des gens même dire aux autres, « Notre pasteur est dans la vérité !» Mais le jour où j'ai touché à un sujet concernant leurs enfants, leur famille, eux-mêmes, bien-aimés, la stratégie du complot a commencé. Parce que le menteur voudra toujours s'imposer. S'il ne s'impose pas clairement, parce que la lumière fait peur, il va aller dans les ténèbres ourdir des complots. Il va aller parler à côté, il ne va pas parler en face. Parce que la lumière chasse le mensonge. Et donc les hypocrites préféreront faire des conciliabules plutôt que venir sur le terrain et dire voilà ce que je pense. Discuter, ils vont préférer faire des conciliabules. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, quand je viendrai, on discutera devant témoins. La vérité travaille dans la lumière. Quand on est venu Jésus-Christ, arrêter Jésus-Christ, Jésus a dit, oh, mais moi je prêchais devant vous. Dans la lumière, au temple, partout, devant tout le monde. Vous ne m'avez pas arrêté en ce moment-là. Mais vous venez m'arrêter pendant la nuit. C'est votre heure, gens des ténèbres. Faites tout ce que vous voulez. Ça montrait, bien-aimés, qu'ils n'étaient pas clairs. Jésus prêche. Si ce qu'il prêche est faux, arrêtez-le pendant qu'il prêche, en public. Vous attendez la nuit, vous faites des complots. Et le mensonge, l'hypocrisie finira par faire aux gens des complots. Parce qu'ils ne supportent pas la lumière étalée tout devant. Parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Et si on étale tout, la vérité éclairera le mensonge. Alors vaut mieux ourdir des complots à côté. Bien-aimés, faites en sorte que dans vos vies, de ne pas participer aux complots. C'est vraiment l'esprit du diable. Ne participez pas aux conciliabules qui consiste à casser quelqu'un d'autre ou à considérer quelqu'un d'autre comme étant mauvais. Non, si vous, ça peut arriver qu'on parle de quelqu'un d'autre, il faut que ça finisse par quoi ? Prions pour la bien-aimée, prions pour le bien-aimé et faisons la démarche qu'il faut pour redresser la personne. Voilà. Si on a peur de faire la démarche qu'il faut, on confie l'affaire à quelqu'un qui est capable de faire la démarche. Mais on ne peut pas se lâcher sur quelqu'un, parler de quelqu'un et s'arrêter sur la critique seulement. Non. On doit accéder à l'autre étape qui consiste à faire la démarche qu'il faut pour redresser. C'est ça l'esprit de vérité, l'esprit de transparence, l'esprit qui construit. Le mensonge finit toujours dans les complots, bien-aimés, dans les conciliabules. Non. Nous devons laisser l'esprit de vérité se manifester. N'oublions pas, bien-aimés, les petits mensonges finiront par devenir des gros et finiront par faire de nous des manipulateurs, finiront par faire de nous des gens qui ressemblent réellement au diable parce que c'est lui le père du mensonge. La vraie conversion, bien-aimés, passe par la vérité. Zachée, quand il s'est converti, il a avoué, il a dit « j'ai pris l'argent des gens ». Je vais leur rendre, je vais rendre tout ça, multiplié par 4. J'ai fait du mal aux gens. Je veux changer. Il a avoué. Et Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. C'est ça la vérité. Le voleur à la croix, qu'est-ce qu'il a dit à son collègue? Il a dit, mais écoute, Nous, nous sommes crucifiés parce que nous sommes bandits. Nous avons fait le mal. Mais lui n'a rien fait. La vérité accepte la situation telle qu'elle est. L'autre voleur, il était mauvais, méchant. Crucifié avec Jésus, il a voulu critiquer Jésus. Oh, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comment tu te retrouves là, toi qui te déclares fils de Dieu? Le mensonge n'accepte pas la réalité. Mais le deuxième a accepté la réalité. Il a dit, nous, nous avons mal fait. Ce n'est que justice si on se retrouve là, mais celui qui est à côté, il est de Dieu. Il n'a rien fait de mal. Jésus, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Ah, frère, Jésus a dit aujourd'hui même, sans tarder, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, ce n'est pas demain, aujourd'hui même. Ta mort va devenir une victoire. Quand on est dans la vérité, bien-aimé, notre mort, c'est-à-dire les critiques des gens, vont devenir notre diamant, notre victoire. Jésus a dit, si tout le monde dit du bien de vous, c'est vous qui êtes un problème. Si vous êtes vraiment dans la vérité, il y a des gens qui diront du mal. Mais tout ce qu'ils vont dire de mal, qu'ils le disent sans avoir de preuves, c'est ça qui va faire votre force, votre gloire. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils ne peuvent pas brandir une preuve, ils auront affaire à Dieu. Mais c'est normal. 2 Timothée 3:12 dit, tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Parfois, les gens mentent parce qu'ils veulent échapper à la persécution et au jugement des autres. Bien-aimés, si même tu n'es pas un vrai chrétien, ceux qui te détestent vont être plus nombreux que ceux qui vont t'aimer. Parce que le monde n'accepte pas la vérité. Donc, n'entrons pas dans une forme d'hypocrisie parce qu'on veut se faire accepter par tout le monde. Restons bibliques, restons dans la vérité. Disons la vérité, quitte à se faire des ennemis, mais au moins ça sera pour la bonne cause. Le mensonge tue, la vérité sauve. Et aujourd'hui, je veux nous avertir parce que, étant pasteur, je constate que de plus en plus, les chrétiens se lâchent dans des petits mensonges sans s'en rendre compte. Et ils comprennent que pas que petit à petit, ils vont devenir comme le diable. C'est très, très dangereux. Ça commence par les mensonges, petits mensonges, gros mensonges, trahison, complot, manipulation. Et finalement, on va renier clairement Jésus, quoi. Parce qu'on va devenir anti-Jésus. Que le Seigneur nous aide à sortir de cela. Je connais des endroits où le mensonge est devenu la règle. Mentir est devenu quelque chose de petit. Mais bien-aimé, les gens là-bas ne produisent pas le fruit du Saint-Esprit. Nous, nous voulons être comme Jésus et produire la gloire de Jésus, sauver les gens réellement et Dieu sera glorifié. Amen. Que Dieu nous aide à rester nous-mêmes et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu cherche les faibles, il ne cherche pas les costauds. Et n'ayons pas peur d'être dévoilés par nous-mêmes, par le Saint-Esprit. Commençons déjà à nous dévoiler à nous-mêmes. Commençons à dire cela à Dieu. Et je crois que le processus de dire aux autres la vérité viendra tout seul. Commençons par se le dire soi-même, à dire cela à Dieu et aux autres, ça viendra naturellement parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prions le Seigneur. Éternel, nous te demandons pardon si nous avons eu des attitudes mensongères, des comportements mensongers, si nous avons eu des attitudes hypocrites, nous te demandons pardon. Nous refusons toute forme d'hypocrisie. Nous refusons toute forme de considération personnelle élevée. Nous voulons nous voir tels que nous sommes réellement, des pécheurs qui avons besoin tous de l'aide du Seigneur Jésus. Sois apaisé envers nous, Seigneur. Purifie nos cœurs et enlève de nous toute volonté de vouloir montrer aux gens ce que nous ne sommes pas. Que nous puissions être ce que nous sommes. Et si ce que nous sommes n'est pas conforme à ta parole, au moins en se dévoilant, nous allons confesser, demander pardon, être purifiés, être restaurés, Seigneur. dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.